Passons maintenant à l'autre question qui est cristal dans l'eau d'une carafe. Une question de Mina. J'aimerais aussi savoir si on peut mettre le cristal encodé dans notre carafe d'eau. Oui, comme moi je le mets dans mon bidon de 5 litres. Je suis sûr que là, l'encodage, il ne bougera pas. Combien de temps met le cristal pour encoder l'eau? Ah ben, ça dépend de la quantité d'eau. Donc, grosso modo, moi, de mon côté, je me donne 1 heure. Mais c'est vraiment beaucoup. Parce que, en fait, je prends un truc, vous avez de l'eau encodée, vous le mettez dans une bouteille en plastique, d'un litre et demi, eh bien, brassez l'eau. Le faites un vortex et vous allez voir à quelle rapidité l'eau va s'encoder parce que vous lui apportez un mouvement, une dynamique, une friction. Et donc à ce moment-là, l'encodage va être extrêmement rapide. Par contre, si vous jetez un cristal encodé dans une eau dormante, c'est-à-dire un lac, et ça ne bouge pas, c'est sûr que là, la vibration mettra beaucoup plus de temps pour encoder. Hein? Donc on le verra aussi, ça c'est une autre chose, c'est que quand il y a des lieux extérieurs, il vaut mieux balancer le caillou là où il y a un vortex que là où il n'y en a pas. Ben, je sais, mais comment qu'on fait pour décoder les vortex? Et là, on tombe sur une autre problématique. Mais je peux vous dire que si vous savez où il y a des vortex et que vous balancez le caillou là où il y a le vortex, eh bien, l'information va diffuser à une vitesse nettement plus grande, puisqu'il aura l'énergie du vortex pour pouvoir se propager. Alors, toujours Mina, tous les membres de la famille peuvent en boire, même s'ils ne sont pas au courant de cette action. Je continue la question. En même temps, en mettant des cristaux un peu partout, la population ne donnera pas son autorisation. Elle boira l'eau codée sans le savoir. N'est-ce pas de l'ingérence? Est-ce que la ville t'a posé la question si tu étais d'accord pour qu'elle mette du fluor? Est-ce que EDF t'a demandé l'autorisation de pouvoir refroidir ses réacteurs nucléaires avec l'eau de la rivière? Est-ce que l'industriel du coin t'a demandé l'autorisation s'il pouvait rejeter ses produits chimiques, dans ses lots de lavage, on va dire? Est-ce que le paysan t'a demandé l'autorisation si son insecticide dans son champ risque d'avoir un problème sur ta consommation d'eau? Regardons les faits en face. Personne ne te demande quoi que ce soit. Et donc, toutes les saloperies qu'il y a dans l'eau actuellement, est-ce que tu as donné ton autorisation pour les avoir dedans? Moi, je connais personne qui dira je veux avoir des insecticides et des pesticides dans mon eau, je veux avoir du fluor, je veux avoir du chlore, hein, de l'eau de Javel, hein, je veux aussi avoir de l'information totalement incohérente, aléatoire, due à tous les champs électromagnétiques. Et puis même mieux, je donne aussi mon autorisation pour qu'elle soit radioactive. Bien. Donc, je réponds à la question, tout simplement. Quand tu sais que tu peux faire du bien et que tu peux améliorer les choses, tu le fais. Et puis, après, tu verras. Mais tu n'es pas obligé, comme dirait l'autre, de dire on va d'abord mettre tout le monde à cette sauce-là, tu essayes sur toi-même et tu vois ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire que tu as ta bouteille d'eau de référence. Hein, moi, je vois souvent des gens qui se baladent avec leur propre bouteille et qui boivent leur truc parce qu'ils font leur truc à eux et puis qu'ils ne donnent pas aux autres. Tu fais la même chose. Tu fais ton eau à toi. Tu la vois et tu vois la différence. Et quand tu verras que tu te portes mieux et que tout va bien et que tu es plus brillante et lumineuse, tu vas te dire, bon, ils sont pas obligés de savoir, premièrement, mais deuxièmement, on sait que Papa Soleil et Maman Rentière, ils envoient la sauce à mort. Donc, Papa Soleil et Maman Rentière ne leur demandent pas leur autorisation et s'ils sont d'accord. En clair, si tu sais que cela te fait du bien, pourquoi ne voudrais pas-tu faire du bien à ceux qui sont proches de toi? De toute façon, ça ne fera que les aider à, quelque part, à transiter mieux vers le nouveau monde. Alors si tu dis non, mais je veux respecter leur libre arbitre, il faut que je leur explique tout, là tu deviens véritablement un lampadaire. Mais tu risques d'avoir en face de toi des oppositions auxquelles tu t'attendais pas. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les gens ont envie d'être en bonne santé. Il ne faut pas croire que tous les gens ont envie de péter la forme. Il ne faut pas croire que tous les gens ont envie d'être des soleils. Parce que sinon, ils ne boufferaient pas de la viande, ils ne fumeraient pas, ils ne boiraient pas d'alcool. Donc dis-toi bien que si même des gens ont un langage de paix, d'harmonie et de tout ça, il suffit de regarder s'ils ont la clope au bec et qu'est-ce qu'ils mangent dans leur assiette. Tu verras bien s'il y a une concordance entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Et tu verras que souvent c'est en pure contradiction. Voilà. Donc, l'autre chose, pour aller encore un petit peu plus loin, quand tu seras de plus en plus un lampadaire, est-ce que tu leur demandes l'autorisation que tu puisses les arroser de ta propre énergie et de ta lumière? Tu leur demandes pas, puisque le simple fait qu'ils soient dans ton aura, ils vont s'en ramasser un max. Est-ce que tu leur demandes leur avis? Non. Bien. Donc c'est à chacun, comme on dit, en son âme et conscience, de savoir ce qu'il peut faire et si ce qu'il fait est positif ou pas. Enfin, positif par rapport à ces critères. D'accord, hein? Je pense, par exemple, à quelques Japonais qui ont balancé du gaz sarin dans les tuyaux du métro de Tokyo, histoire de dire, non, non, on va rendre service à l'humanité, parce que là, ils sont tellement cons, tellement des fourmis et complètement blindés, qu'il vaut mieux qu'ils soient à 6 pieds sous terre que continuer à monter dans les rames de métro. Et ils pensaient bien faire. Bon, le seul truc, c'est que s'il avait essayé sur lui, il aurait vu qu'il n'aurait pas pu aller plus loin. C'est ça la différence. Il y en a qui pensent, mais expérimente, vis-le. Vois les résultats et en fonction de ça, tu diras, ah tiens, j'ai trouvé quelque chose qui peut faire que les gens qui sont proches de moi peuvent être dans un état, on va dire, de sanitaire, on va dire, plus élevé. Donc, voilà, c'est à chacun de... Moi, je fais mon taf avec mes croyances, enfin mes croyances, mais surtout le résultat d'observations vérifiables, quantifiables, et qui ont été recoupées moult fois par d'autres gens qui n'avaient pratiquement rien à voir avec tout ce que je racontais. Donc, quand tu vois que ça roule, tu te dis, bon, pourquoi vouloir parler d'ingérence quand tout le monde te demande jamais de... Alors, effet de l'eau encodée. Que tend la brodeuse? Quels peuvent être les effets d'une relaxation dans une baignoire dont l'eau se recontacte d'un cristal encodé? Pas si simple. C'est comme si tu te trempais dans une fontaine de jouvence. Je disais tout à l'heure que quand vous lavez votre salade, si vous la lavez avec de l'eau encodée, la salade, elle va sourire. Eh bien, votre corps fera la même chose. Ainsi que tous les esprits cristallins, c'est-à-dire que prenez vos crânes de cristal et mettez-le dans l'eau encodée, et vous allez voir comment ils vont vous dire merci. Alors, c'est une question qui viendra un tout petit peu plus loin, quelque part, je l'ai lu. Alors, l'eau encodée est surtout vitalisée. Haute en énergie, les crânes, et surtout si en plus elle est très fine, très pure, alors là ils sont aux anges. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des esprits cristallins. Et donc un esprit cristallin, le moindre de ces trucs, c'est qu'il n'y a personne qui pourra encoder son cristal s'il ne veut pas, puisque c'est lui l'encodeur. Donc si vous lui, par contre, vous lui fournissez une information en le mettant dans l'eau encodée, et que cette information, il la trouve bonne, vous inquiétez pas, il utilisera le code selon ce qui lui semble le mieux pour lui. Donc, ne croyez pas qu'un crâne de cristal, par exemple, est un truc passif, un caillou qu'on met, et puis on dira, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que quand nous encodons les cailloux petits poucets, c'est que nous passons par une entité cristalline qui est capable de pouvoir le faire. Alors, il n'y a pas de souci à se faire quand vous avez un crâne de cristal que vous plongez dans l'eau, puisque c'est l'entité cristalline elle-même qui va voir ce qu'elle peut faire avec le code que vous lui fournissez. Donc, il n'y a pas de question, là, je veux dire, c'est une évidence. Alors, donc si vous voulez vous baigner dans l'eau encodée, je veux dire, c'est pour ça, moi, je veux dire, il faut y aller au bidon de 5 litres, hein. Il faut y aller au bidon de 5 litres. Alors, comme dira l'autre, si vous mettez l'eau de la baignoire à 60 degrés, c'est sûr que ça va perdre un peu de son codage. Mais si vous êtes dans de 40 degrés et que vous balancez un bidon de 5 litres encodé, vous laissez mariner, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, histoire d'être sûr que ça brasse bien, puis après, mettez-vous dedans. Et puis, ben, si vous avez un truc qui brasse en même temps, ben, lancez-le et vous allez voir. Vous allez voir comment votre bain va se transformer. Parce que là, véritablement, votre corps va pouvoir non seulement prendre le code d'une manière extérieure, mais aussi va pouvoir se décharger. Parce que, en faisant cela, ce que vous oubliez, c'est que vous baignez avec votre aura dans l'eau. Et donc, vous nettoyez votre aura par la même occasion. C'est ce que font les crânes de cristal quand vous les mettez dans l'eau. Ils s'auto-nettoient. Pas seulement le cristal, mais tous les corps subtils. Et donc, c'est hautement conseillé. C'est pour ça que je vous disais, il y a toujours une autre référence. Et puis après, ben, l'autre consommation, vous allez voir que vous allez en utiliser beaucoup plus que prévu. Enfin, plus que prévu, en termes d'encodage. Alors, une question de Gino. Est-il utile, en complément de l'ingestion, de mettre un caillou dans son bain de relaxation? Ben, je viens de répondre, oui. Puisque l'eau que tu bois rentre dedans, et l'eau qui est dehors, eh ben, elle te travaille, bien sûr, toute la carcasse et tes corps subtils. Une question de Céline. Quels seront les effets si on baigne un crabe de cristal dans cette eau? Ben, je viens de répondre. Serait-il encodé à son tour intégralement, désencodé, réencodé, ou seulement en surface? Il sera ni encodé, ni réencodé. C'est l'esprit cristallin lui-même qui décidera ce qu'il fait de l'information. Mais il appréciera hautement qu'elle soit énergétisée. Parce qu'il va se recharger les batteries comme pas possible. Donc, nous offrons à nos crânes un bain régulier en eau la plus haute possible et encodée. Et là, ils sont nirvana. Vous prenez la bassine, généralement assez transparente, et vous la mettez en plein soleil. Et là, comme dirait l'autre, ils sont au tropique avec les bananiers, enfin les cocotiers et compagnie, quoi. Ils sont classe. Si là-dessus, vous leur jouez un petit son cristallin via des bols de cristal, par exemple, alors là, là, ils vous aiment pour la vie, quoi. Vous voyez, c'est pas difficile, hein. On peut faire plaisir à beaucoup d'entités cristallines en les considérant comme, on va dire, des enfants dont il faut s'occuper, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que ces crânes de cristal, ce n'est qu'un téléphone pour nous, un téléphone portable, parce que eux, ce sont des esprits cristallins, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer, ils peuvent aller ailleurs, c'est que tout simplement, ils ne sont pas coincés dans ce cristal comme nous, notre esprit, notre étincelle d'esprit est coincé dans ce corps de matière. Eux, ils ne sont pas coincés du tout, ils peuvent s'en aller, revenir, partir, faire ce qu'ils veulent. Simplement, le fait que vous ayez ce crâne de cristal à votre main, c'est avoir un téléphone portable. C'est-à-dire que quand vous touchez le cristal, qu'il est à proximité de votre aura, de vous-même, eh bien, vous pouvez communiquer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. C'est sûr. Par contre, imaginez que vous devez téléphoner à votre fille qui habite à la ville d'à côté à 10 km et que vous n'avez pas votre téléphone portable. Est-ce que vous pensez qu'en criant très fort, elle va arriver à vous entendre à 10 km de là? Non. Donc voilà, ce qu'est un crâne de cristal, c'est un téléphone portable pour les gens qui sont sourds. C'est plus facile. Mais vous verrez qu'arrive un moment, le crâne de cristal lui-même n'est plus vraiment nécessaire. Parce que vous pouvez être en contact avec l'esprit cristallin directement, quelle que soit la distance. Mais bon, il faut avoir développé, on va dire, sa sensibilité et être passé ce qu'on appelle au niveau d'activation 5. Donc, tant que vous n'y êtes pas, ben, c'est bien d'avoir le crâne de cristal à côté. Donc, lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un esprit cristallin, ça n'a pas de bras ni de jambes. Eux, ils se déplacent, ils sont vibratoires. Par contre, ce qui n'a pas de vraie jambe, c'est surtout le crâne. Et donc, le crâne, c'est de la matière, il faut se le trimballer. Ouais, on est d'accord. Donc, c'est comme un téléphone, il faut le mettre dans la poche, il faut se le trimballer, parce que si vous ne le trimballez pas, il ne vous suivra pas. Il ne peut pas. Ok? Alors, une question de Bennett concernant les pierres en extérieur. Je souhaiterais déposer un cristal petit poussé dans une cuve d'eau réservée pour l'arrosage du jardin. Si j'ai bien compris, il faut que la cuve soit complètement abritée, pas partiellement, de la lumière extérieure, c'est ça. Un habillage de bois fera-t-il l'affaire? Alors là, je répète, c'est que l'encodage se fout un petit peu de la chaleur et tout ça. C'est l'aspect énergétique. Donc si tu mets un cristal dans ton eau, on va dire que les plantes vont recevoir effectivement une eau encodée, ce qui est quand même classe. Mais si tu désires qu'elles aient de l'énergie, c'est-à-dire recevoir une eau hautement énergétisée, il y a de l'énergie, je rappelle, d'un côté, et l'encodage de l'information. Donc tu sais qu'en mettant le cristal, ils auront l'information. Mais si tu mets de l'énergie, dis-toi bien que ça c'est de l'engrais. Et donc, grosso modo, avant d'arroser, c'est simple, tu prends une bouteille d'eau que tu as encodée, c'est d'eau de consommation, hein, c'est bidon de 5 litres, puis tu en verses un litre ou deux dans ton réservoir, tu attends un certain temps, même s'ils sont en plein soleil et tout, t'en fous. Mais de toute façon, ça va être consommé rapidement, ça va pas durer 24 heures ton truc. Donc tu balances un litre d'eau, tes 5 litres d'eau dedans, tu laisses le temps que ça marine un tout petit peu, et puis tu lances ton arrosage. Et tu vas voir que là, ils vont hurler de joie là, au bout de la... tous ceux qui vont recevoir cette eau, parce qu'elle sera hautement énergétisée, tout en possédant l'information. Donc, si tu peux protéger de la lumière extérieure, c'est toujours mieux de toute façon, hein, puisque c'est toujours mieux de toute façon, parce que quand vous avez des réservoirs, il y a généralement des développements de bactéries en fonction de la température. Donc, les plantes, c'est comme nous, moins il y aura comment dire, de bactéries si elles restent dans l'eau, et mieux elles se porteront de toute façon, parce qu'elles pourront assimiler directement. Tu vas me dire que les bactéries qui sont dans l'eau ne sont pas contentes de jouer à la fuite de l'air et de se retrouver l'effet salaire. Mais dans les rivières, qu'y a-t-il de différent pour que la lumière extérieure ne modifie pas l'encodage de l'eau? Donc, là, je répète, nouveau, l'encodage est une chose, l'énergie en est une autre. Donc aujourd'hui, l'opération petit poussé, c'est surtout, 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 encoder l'eau. Mais si on peut, en passant, balancer de l'eau encodée, enfin, de l'eau énergétisée, alors là, vous lui rendez service encore beaucoup plus fort. Parce que là, l'aspect vivant, c'est-à-dire les poissons, tout ce qui est être de la nature, vont être heureux de l'information que vous délivrez, mais vont être aussi super, super contents d'avoir une énergie hautement, on va dire, enfin hautement vibratoire, c'est-à-dire qui est assez puissante. De toute façon, si vous faites ça, ben on pourra peut-être aller plus loin si vous voulez dans le niveau. Si vous êtes assez sensible, vous verrez que si vous trempez les mains dans l'eau, c'est-à-dire que vous déversez de l'eau hautement énergétisée à un endroit et que vous mettez les mains à cet endroit-là, vous verrez que peut-être vous aurez des échauffements locaux au niveau des doigts et vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Eh bien, c'est que tout simplement, des êtres de la nature, comme par exemple les ondines, passent pour récupérer le code et en passant à travers vos doigts, vous réchauffez les doigts et vous sentez des coups de chaud, des coups de froid, des coups de chaud, des coups de froid, parce que en fait, les êtres de la nature sont en train de prendre cette énergie pour aller le distribuer là où il faut le distribuer. Donc, à ce niveau, il y a eu un décret qui a été accepté par les très hautes autorités, on va dire, des êtres de la nature. C'est que dès qu'ils voient quelqu'un balancer un caillou dans l'eau, ils ont reçu l'ordre d'aller voir ce caillou. Voilà. Alors bien sûr, il y a des millions de gens qui balancent des cailloux dans l'eau, mais là, ils savent que, particulièrement, on va dire en France, ils savent que là, il y a une opération en cours et qu'il faut regarder de très près. Parce que à ce moment-là, et comme je vous disais, si l'eau est encodée à un certain endroit, c'est-à-dire que vous avez par exemple un lac ou une espèce de petite rivière qui bouge quasiment pas, la progression de l'encodage dans l'eau va être faible. Ça, c'est une chose. Et donc, c'est là que les êtres de la nature aquatiques vont aller chercher le code au niveau de la pierre pour aller ensuite l'emmener à d'autres endroits. C'est-à-dire, vous allez redonner la vie à la rivière. Mais les êtres de la nature qui sont invisibles bosseront comme des malades, parce que pour eux, c'est du pain béni, tout ça. C'est vraiment de l'eau bénite que vous leur donnez. Pas de l'eau. Une pierre bénite, on va dire, qui va permettre à l'eau de pouvoir reprendre des forces et de redonner de la vie là où il n'y en a pas, c'est-à-dire toute forme de vie. Donc, croyez-moi qu'on n'est pas tout seul. Il y a du monde derrière. Il y a du monde. Alors, pierre encodée pour rivière, etc. Donc, on va continuer par rapport à ça. Une question de Garcia. Comment évaluer pour une surface d'eau donnée, lac notamment, ou mieux encore pour un débit et une longueur donnée, rivière et fleuve, la quantité de pierres encodées utiles à déposer? C'est là que je vois que Garcia a bien compris la problématique. C'est que mettre une pierre encodée dans un petit lac, une petite mare, ça fera son effet, ça mettra un certain temps. Que si on met dans un très grand lac, par exemple, je dis le lac Léman, vous mettez une pierre, c'est sûr qu'avant de pouvoir que le lac Léman soit codé, ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps. On comprend aussi que s'il y a un débit, que ben, ça sera comme un filet d'eau qui sera encodé, mais qui va se diluer au fil des kilomètres qu'il va faire. Au point que l'information transmettant son, enfin, l'eau qui sera encodée transmettant l'information à d'autres va s'affaiblir au fil du temps. En clair, eh bien, le travail de la pierre encodée va faire un certain boulot, mais si le débit est trop important, ce sera un petit caillou vraiment, enfin, qui fera son effet, mais qui sera très faible par rapport à l'ensemble. C'est que si vous prenez par exemple un fleuve, on va dire prendre la Garonne par exemple, et vous balancez un caillou à Bordeaux, je peux vous dire que avant avant que tout l'embouchure de la Garonne jusqu'à la mer soit encodée, je vais me dire, il va se passer du temps. Donc, il y a effectivement des solutions, et je ne vais pas répondre trop en avance pour l'instant, parce que il y a déjà des questions qui sont posées, je vais y répondre, parce que j'ai déjà commencé à étudier la question et aussi à agir en conséquence, hein, je vais vous dire. Donc, on voit bien que Garcia a bien compris le problème de dilution de l'information, hein, ce qui n'a rien à voir avec l'effacement de l'information dans le cristal. Et nous allons voir sa deuxième question. Quels seraient les lieux de positionnement pour les pierres les plus adéquats, notamment pour les rivières et fleuves, sources de chaque rivière fleuve et de leurs affluents petits et grands, barrages et chaussées au regard de la dynamisation créée par ces écarts de niveau? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va travailler en amont, c'est-à-dire dans les hauteurs, et plus on a de chance que ça aille se diffuser vers le bas. Donc, toute pierre posée à une source va forcément, comment dire, encoder. D'abord, toute l'eau qui passera, qui chose près, si la source n'est pas trop importante, eh bien, aura une chance effectivement d'être encodée. Mais elle va se diluer au fil du temps, parce qu'avec toutes les eaux de pluie, bah, vous avez d'autres petites rivières qui se joignent, etc., qui fait que l'effet va s'anonymiser au fil du temps. Donc, il va falloir effectivement mettre des relais. Et ces relais, eh bien, c'est que selon une certaine distance, et pour l'instant, nous ne pouvons pas répondre à cette question, hein, et on attendra la fin de la webcam pour que je vous en parle, parce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont intervenus. Hein. Et donc là, je répondrai plus tard par rapport à ça. 3. L'encodage des ponts en pierre ne serait-il pas en effet plus pertinent et efficace sous couvert que d'autres personnes soient autorisées et aptes à réaliser l'encodage et soient, qui plus est, totalement dédiées à cette tâche? Autrement dit, selon tes informations, selon quels facteurs et vecteurs, contact moléculaire, diffusion biophotonique, les informations du réencodage vont-elles se propager dans l'eau? Alors, l'histoire des ponts, c'est la solution qu'effectivement moi j'ai trouvée et nous avons déjà commencé à encoder des ponts. C'est-à-dire qu'effectivement, un pilier de pont, enfin des piliers de pont, c'est quand même plus costaud qu'un petit caillou balancé dans la rivière. Voilà. Alors bien sûr, il y a, on va dire en termes de temps passé à cette affaire, il y a quand même un minima. Et ce minima, moi, c'est que dès que je vois que un pont est suffisamment grand, ça veut dire que la rivière qui est en dessous, le lac ou l'eau stagnante est suffisamment large, c'est-à-dire à partir de 5-6 mètres, je me dis ça commence à valoir le coup d'encoder. Pourquoi? Parce que il faut y ait au moins, ben pour moi, pour l'instant, en fonction de mes énergies, de mon temps, il faut quand même qu'il y ait un, voire deux piliers qui ont vraiment les pieds dans l'eau. Parce que bien sûr, si vous avez un pont qui démarre d'une rive et qui va à l'autre rive et qu'entre les deux il n'y a pas de pilier, ça sert pas à grand chose d'encoder le pont, surtout si l'eau ne touche pas les piliers du pont. Donc je privilégie donc les ponts qui sont avec des piliers. Et donc là, à ce moment-là, on ne s'emmerde pas, on encode le pont complet. Voilà. Donc on est sûr que quel que soit le débit de flotte, ça va encoder. Alors après, au bout de combien de kilomètres ça va commencer à se diluer suffisamment, ça nous ne savons pas. Mais, comme je dis, de nouvelles informations sont arrivées, et pour nous aider d'ailleurs par rapport à ça, et je vous en parle un tout petit peu plus tard après les questions. Donc, là, dans la troisième question, c'était des personnes, que d'autres personnes soient autorisées. Il ne peut pas y avoir de personnes autorisées dans le sens que c'est l'atteinte d'un certain niveau vibratoire, déjà dans un premier temps, et deuxièmement, une capacité à pouvoir travailler avec, on va dire, des êtres de la nature, du monde minéral. Donc, si vous parlez avec des nains, c'est bien, mais le nain vous sera d'aucune utilité pour encoder un temps. Si vous discutez avec des EDL, avec Michael ou avec d'autres, eh bien, ils sont au même titre. Ils ne sont pas là pour ça. Donc, le minéral, le monde minéral appartient, est sous la juridiction, on va dire, des entités cristallines. Donc, il faut déjà être en contact avec des entités cristallines qui, bien sûr, sont à votre service dans le sens où ils ont reçu l'autorisation par, forcément, la hiérarchie qui est au-dessus. Or, si vous voulez des autorisations de la hiérarchie qui est au-dessus, il va falloir faire vos preuves. Et là, c'est un autre problème. Vous voyez donc, ça ne peut pas être pour l'instant distribué à tout le monde, Nous espérons que ça le sera un jour ou l'autre, mais pour ça, il faut monter en fréquence. Donc, nous sommes les premiers à recevoir cela. Comme dirait l'autre, c'est un cadeau un petit peu, comme on dirait dans notre monde de 3D, un cadeau empoisonné, parce qu'on dit, attends, je te fais un cadeau, puis derrière, tu dois bosser à fond pour pouvoir effectivement faire ce qu'on nous demande de faire avec. Donc, en fait, on dit, tiens, voilà un tournevis, maintenant, tu as 3 millions de vis à visser. Tu dis, merci, le tournevis est beau, il est plaqué or, il est génial, je suis vachement honoré de voir recevoir ce tournevis, mais derrière, tu as 3000 vis ou 3 millions de vis à viser. Voilà, ça c'est les cadeaux, on va dire, des êtres de lumière. Ils te font des cadeaux, mais c'est toujours un cadeau utile et qui a une finalité. On ne dit pas, tiens, je t'offre un truc X, Y, Z que tu vas mettre dans un coffre et que tu n'as plus rien à battre une fois que tu auras tourné les talons. Quoi. Ça, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas, alors, les petits cadeaux pour faire plaisir, juste pour dire c'est le geste qui compte, ça, c'est chez nous, ça. Mais de l'autre côté, c'est une gestion juste des énergies et aussi une distribution, on va dire, pas équitable, mais juste des responsabilités. Donc, il est donné des responsabilités, enfin, des cadeaux, on va dire, qu'à ceux qui ont déjà montré qu'ils sont capables de pouvoir tenir la route. En clair, pour l'instant, nous avons reçu ceci parce que nous avons prouvé, via le cordon des Léas, que nous étions fiables et qu'en plus, nous étions capables de discuter avec toute forme d'entité, qu'elle soit aussi bien minérale qu'élémentale, que ce soit un être de la nature ou un EDL. Donc, ça demande un minimum. Donc, ceci, ce n'est pas nous qui avons demandé. Ce n'est pas un privilège qu'on va dire qu'on est heureux d'avoir parce que y a du boulot et vous allez comprendre que dans mes futures tournées, je vais passer mon temps à encoder des ponts, à encoder des tas de pierres et à etc, etc, etc. Donc, c'est un boulot à temps plein. En plus de tout ce qu'on a déjà à côté à faire. Alors, une question de Michael. Y a-t-il un nombre conseillé de pierres encodées petit poussé à voir? Il n'y a pas de nombre conseillé, c'est que de toute façon, plus t'en auras, mieux tu te porteras. Alors, on verra que il y a deux types de pierres, on va dire. Il y a pour l'instant les cristals de roche que nous avons encodés, qui est surtout fait pour, comme je l'ai dit, pour des notions de consommation d'eau. Hein, c'est-à-dire à titre personnel, voire, on va dire, un petit peu collectif, parce que c'est sûr que si t'arroses ton jardin avec, t'en peux profiter quand même beaucoup. Mais ce sont donc, ça reste des cailloux, on va dire, sanitairement faits pour une consommation. Par contre, la deuxième chose, c'est-à-dire que tout ce qui est cailloux à mettre dans les rivières, dans les lacs, dans les étangs, au niveau des sources, etc., eh bien là, on peut se rabattre sur des pierres, on va dire, moins chères. Parce que, bon, le cristal de roche, il y a un coût, même si on prend des petites pierres, si on voulait une pierre d'un kilo, un cristal de roche d'un kilo, ça commence à faire cher. Donc, le truc, c'est que nous avons demandé donc aux esprits cristallins quels étaient les différents types de pierres qui étaient les plus préférables, et ils ont répondu que le granit était, on va dire, l'une des pierres les plus conductrices par rapport, on va dire, à toutes les roches dites sédimentaires. C'est-à-dire que quand vous avez du tuffeau, quand vous avez des pierres qui sont le résultat d'une sédimentation, hein, c'est-à-dire des pierres calcaires, eh bien ça, c'est pas bon du tout parce que la conductivité est très faible. Et avec le temps, elle s'éclate, elle se casse, elle se délite, alors qu'un granit, ça se délite pas. Donc, concrètement parlant, il faut des pierres qui ont été chauffées et qui ont refroidi. Car à ce moment-là, on va dire la conductivité est meilleure. Donc généralement, eh bien, ce genre de pierre suffit très largement pour les rivières, etc. Donc par exemple, quand vous allez au bord des rivières, il y en a, ils ont des galets. Qu'est-ce qui vous empêche de ramasser des galets et puis de les faire encoder. Et puis après, vous renvoyez les galets dans la rivière d'où elle vient. Voilà, ça coûte rien, juste le temps d'aller ramasser les galets. C'est pareil pour tout ce qui est ce qu'on appelle les graviers à béton, c'est-à-dire des graviers, c'est-à-dire ce sont souvent du sable qui a été tamisé, et puis vous avez des gros graviers, Et vous avez des plus petits. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se permettre d'encoder une plage, hein, parce que le sable, c'est quand même de la silice, donc ça conduit bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de limitation, mais il ne faut pas que ce soit de la roche sédimentaire. Hein, donc exit tous les calcaires, exit tous les trucs qui n'ont pas été, on va dire, chauffés par moment au rentia et qui n'ont pas été refroidis ensuite. Hein? Voilà. Donc après, bah, quantité de pierre, si tu dis voilà, moi j'ai 3 bidons de ceci, j'ai 5 litres de ça, bah, tu dis ouais, ça me fait une dizaine de pierres en total de roche, mais rien t'empêche de mettre un gravier comment dire, dans ton réservoir pour arroser le jardin. Hein. T'es pas obligé de mettre des cristaux de roche. Hein. Pas du tout. Voilà. Hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a une notion de coût. Et balancer du cristal de roche dans toutes les rivières de France, ça va surtout arranger tous les marchands de cristal de roche. Mais ça va surtout vider votre porte-monnaie. Donc, vaut mieux mettre 1 kg de gravier dans un lac, un grand lac, que dire je vais acheter 1 kg de cristal de roche. Vous voyez, l'efficacité sera beaucoup plus grande avec le gravier pour un coût qui sera ridicule. Parce que bon, globalement, une tonne de gravier, ça dépend combien en taille, mais une tonne de gravier, ça tourne aux environs de 25 euros. Une tonne. Si je disais, on va mettre une tonne de cristal de roche dans tel lac pour qu'il revienne, là, vous allez dire, attendez, là, il a déliré le petit, là, il n'est plus sur Terre, là. Et regardez, pour 25 euros, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme cristal de roche? Il n'a pas grand-chose. D'accord? Une tonne, je vais dire pour 25 euros. Donc, si vous mettez une tonne de gravier que vous disséminez par exemple, dans un lac, admettons, je sais pas, un lac d'Annecy, mettez une tonne déjà de gravier dans le lac d'Annecy, que vous avez réparti tout autour du rivage, ben, je peux vous dire que ça va être efficace. Alors que si vous mettez un cristal de roche qui a coûté 25 euros, c'est-à-dire la tonne de gravier, ça va mettre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Hein. Donc là, il faut avoir une notion, on va dire, des coûts. On nous demande d'être efficace, pas de vider nos porte-monnaie. Et combien de temps peut-on les garder les pierres sans utiliser la totalité? Comme je disais, c'est gravé à vie. Donc, parce que je vous rappelle qu'un minéral, ça parle en millions d'années. Une fois qu'ils sont encodés, tant qu'un être cristallin n'ouvre pas le code pour pouvoir réencoder quelque chose dessus, ça restera tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il n'y a pas de notion de temps. J'ai la chance d'avoir une rivière qui prend sa source pas trop loin de chez moi et qui donne une idée de déposer une pierre au plus près de sa source. La réponse est oui. Dernière petite question, y a-t-il une autre petite rivière qui passe dans la ville où je vis et cette rivière est vraiment crado? Déchets qui traînent, manque parfois d'eau. Bref, la rivière n'est jamais jolie à voir. D'ailleurs, personne ne la regarde. Est-ce que dans cette rivière, je peux déposer un cristal petit poussé, ou est-ce peine perdue? Eh bien, bien au contraire. C'est pas peine perdue, ça sera tout l'inverse. C'est-à-dire que, en redonnant une information de qualité, eh bien, la vie va se redévelopper. Et forcément, comme la vie va se redévelopper, ce qui est crade va être digéré par toutes les formes de vie. Donc, la décomposition sera beaucoup plus rapide. Donc, l'eau redeviendra beaucoup plus claire. Nous avons fait les essais et ça marche. Donc, bien au contraire, il faut absolument, en fait, je ne vais pas dire mettre en priorité toutes les eaux stagnantes et merdiques, mais presque. Presque. Mais bon, de toute façon, il faut en balancer partout, hein, que ce soit là où c'est crade ou que ce soit pas trop crade. Parce que, comme je le disais, c'est pas parce qu'une eau vous semble transparente et cristalline qu'elle est propre, qu'elle est nickel chrome, hein, ça veut rien dire. Absolument rien. Moi, je prends l'eau du puits, je peux vous dire qu'elle est cristalline, pas possible. Sauf qu'on est entouré que par des champs, et donc elle est bourrée d'insecticides et de pesticides. Et pourtant, elle est cristalline, on a vraiment envie d'en boire. Une question de Rick. J'ai dans mon terrain une source qui débite toute l'année de 2000 litres par heure. Elle est potable et sans nitrate, et c'est rare en Bretagne. J'en bois tout le temps depuis 8 ans. Je voudrais y mettre une ou des pierres activées qui sont en commande. Vu leur petite taille, combien faut-il en mettre? En sachant que la fontaine alimente un petit étang de 1000 m². Après, coule jusqu'à la mer à 700 mètres. Là, comme je te disais, c'est pas le nombre de petites pierres, c'est que tu balances quasiment, vu le débit, 2000 litres à l'heure. Je sais pas si tu imagines, 2000, c'est 2 mètres cubes à l'heure. C'est pas difficile, tu balances 1 ou 2 kilos de gravats qui ont été, enfin, de gravats, de gravier qui ont été encodés, là, je veux dire, t'es tranquille. Alors, il y a une autre solution aussi, quand c'est des choses comme ça, puisque nous l'avons fait déjà, chez Brigitte, c'est qu'on a encodé carrément le puits. C'est-à-dire que le puits est fait avec des pierres. Eh bien, on a encodé carrément le puits. Donc là, on est tranquille, on n'a pas besoin de balancer des cailloux dans le puits. Et donc, le puits encode toute la flotte, non seulement qui passe, mais aussi, comme c'est une information, elle remonte le courant. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut comprendre, une information, elle suit pas le sens du courant. Et elle se diffuse à 360 degrés. Donc, il est évident que ce puits va littéralement encoder toutes les eaux souterraines dans un rayon certain. Et elle va pas s'épuiser, puisque ce sont les pierres mêmes du puits qui sont encodées. Donc, c'est aussi dans le même esprit que encoder, on va dire, les ponts. Donc, on peut encoder beaucoup de choses, même les maisons carrément. Hein. Mais c'est ce que nous avons fait chez quelqu'un. Donc, nous avons sa maison longe la rivière et quasiment plonge les pieds dans la rivière. Ben, on a encodé carrément, on s'est pas embêté à balancer trois cailloux dans la rivière, on a encodé carrément la baraque. Alors, ça a des avantages. Mais bon, je vais pas ouvrir tout à ce niveau-là, parce que sinon, on va faire encore toutes les baraques de tous les gens qui misent. Et ça, j'ai quand même, il n'y a pas que ça à faire. Mais il faut comprendre que quand nous encodons une pierre, nous la nettoyons aussi de toutes ses mémoires, pratiquement. Ça veut dire que quand vous allez dans certains lieux qui sont très pollués, on va dire, un encodage superficiel mais suffisant, c'est-à-dire de tous les gens qui ont par exemple habité cette maison avec toutes les crises qu'il y a eu dans cette maison, tous les meurtres qu'il y a pu y avoir, tous les viols, toutes les émotions pas possibles, eh bien c'est pas difficile quand vous encodez carrément les pierres, eh bien l'encodage intérieur donc de 5 décidés se met là et rayonne. Donc ce qui veut dire que tout ce qui appartient à la 3DKD dégage. Donc, si vous avez une maison qui est relativement, on va dire, chargée, eh bien, le fait d'encoder carrément la baraque va la décharger, quoi. Donc, vous voyez que ça va beaucoup plus loin que juste dire on encode l'eau. Alors, imaginez quand vous vivez dans une maison comme ça et que vous êtes que de la flotte. Là, vous êtes entouré par les cristaux et donc là, vous vous faites encoder directement par l'extérieur. Alors, si vous buvez l'eau en même temps et qu'en même temps, là où vous dormez, vous vivez, vous êtes littéralement baigné dans cette énergie de 5 décidés, c'est sûr que vous avez des taux de transformation qui n'ont plus rien à voir avec le commun des mortels qui boit de l'eau de robinet dans un HLM. Mais bon, vous pouvez imaginer que pour l'instant, on n'a pas donné cette capacité pour, on va dire, encoder les baraques. Hein? On est là déjà pour encoder, on va dire, principalement l'eau de consommation des individus, ce qui est déjà pas mal, et deuxièmement, l'eau de moment on retient Gaïa. Après, on verra comment on va faire concernant les murs, parce que c'est une autre étape. Mais bon, commençons par le commencement déjà, nettoyons, faisons déjà du gros boulot de débarrassage. Vous savez, c'est comme quand un tracteur, enfin n'importe quoi est complètement dégueulasse, généralement on prend des tuyaux d'arrosage et vous balancez un bout de flotte. Puis après, vous commencez à regarder ce qui se passe pour voir où c'est rouillé, où il y a de la crasse, où il y a des trucs. Mais généralement, vous pensez commencer par un bel arrosage avec le tuyau d'arrosage du jardin. Ou au seau, comme vous voulez. Hein. Donc c'est simplement l'opération petit poucet, c'est on commence déjà à faire un arrosage global pour faire un nettoyage global. Et puis après, on pourra aller astiquer plus précisément là où il faut astiquer. Alors, une question de Gino. Par ici, en Belgique, il existe de nombreux canaux de navigation. Peut-on également y se mettre géolocalisé? Oui. On peut encoder, enfin, on peut balancer des cailloux partout. Partout, tu trouveras de l'eau, que ce soit une mare à canards, un canal, une rivière, n'importe quoi. Alors, dans la mer, c'est pas la peine, hein, parce que, comment dire, au niveau de la mer, c'est pas ton petit caillou qui va faire un effet. Là, il faut quasiment empiler les rochers, voire la plage. Et donc ça fait partie, on va dire, des nombreuses tâches qui viennent se rajouter à mon humble périple quand je vais aller vous visiter à Bretagne. C'est-à-dire que partout, on va voir qu'il y a un rocher dans la mer, quelque chose comme ça. Quand je dis un truc suffisamment qui baigne bien dans la mer, on reconnaît. Et donc, progressivement, la mer va se faire reconnaître. Ça, c'est sûr. Mais bon, on parle avec une dimension quand même autre. Il y a une différence entre encoder la mer et encoder les cours d'eau. Hein. Mais n'empêche que de toute façon, la mer, ce sera la dernière qui sera véritablement encodée, puisque tous les cours d'eau se jettent. Ben, elle est le terminus. Donc, ce terminus, il est quand même balèze. Mais, comme dirait l'autre, rien ne nous arrête. Commençons déjà à faire les cours d'eau de France et de Navarre, et puis la mer qui, parce que je vous signale que quand même, c'est quand même la France qui a, je crois, le plus grand littoral, c'est-à-dire de rive et de côte de l'Europe. C'est fou. Hein. Donc, il y a presque plus de côtes que de frontières sur Terre, hein, quelque chose pareil. Donc, il y a du boulot. Hein. Donc, si la France est encodée correctement, croyez-moi que ça va rayonner dur dans toutes les directions. Mais je vous rassure, d'autres pays sont déjà en lice, c'est-à-dire que d'autres personnes francophones qui habitent à l'étranger ont commencé déjà à commander aussi des cristaux, et donc ça va se disséminer un peu partout, et ça ira à sa vitesse, mais de toute façon, c'est inéluctable. C'est inéluctable, enfin bon. Moi je vois ça comme ça, après bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, pierre dans un puits. Une question de Clasim. Demeurant en campagne, la résidence est alimentée en eau par un puits artésien dont la profondeur est de plus de 30 mètres. Ma question est la suivante. Si j'envoie une pierre encodée au fond du puits, toute l'eau alimentant la propriété devra normalement être encodée. Tout comme les lacs et rivières qui recevront une telle pierre encodée. Oui. Alors, si tu mets un petit cristal de roche qui fait 1 cm dans ton puits et qu'il y a un gros débit, c'est sûr que ça va avoir du mal à entre guillemets, encoder tout le monde. Il y a une dilution importante. Donc là, il est conseillé effectivement de mettre un peu plus lourd. C'est là que l'aspect gravier, granitique, prend son importance. Mais bon, le mieux, c'est d'encoder le puits quand même. Alors, en passant, le béton, notre esprit cristallin, enfin, on va dire, oui, l'esprit de la nature qui appartient au règne cristallin, lui, le béton, c'est pas trop son taf. Hein. C'est pas trop son taf, même s'il y a des graviers, ils sont séparés par une autre roche qui s'appelle le ciment, et le ciment est une roche qui a été broyée, concassée et portée à température, qui fait qu'elle a perdu nombre de ses qualités, on va dire, conductrices. En clair, eh bien, le béton, c'est comme si vous mettiez des cailloux dans un isolant. Donc, ça passe mal. Ça passe très mal. Et en plus, maintenant, quand on fait du béton, on met aussi des barres de ferraille. Et c'est vrai que notre ami cristallin, la ferraille, c'est pas trop son truc. Parce que la ferraille, c'est pas un minéral. Il n'y a pas du tout les mêmes structures, et d'un point de vue énergétique, ça le flingue un peu. Donc, il est pas très partant pour du béton ferraillé. Donc, en clair, si c'est un puits qui est fait avec des tubes en béton, là, je me rappelle plus comment ça se dit, c'est sûr que là, on pourra pas encoder le puits. C'est sûr. Mais bon, ça n'empêche pas de balancer un kilo de gravier au fond. Hein. Et bon, pas s'en aller. Hein. Voilà. Une question d'Isabelle. Je pensais mettre une pierre encodée dans un bac de réception d'une eau de source que je ne consomme pas, afin d'en faire bénéficier le terrain alimenté par cette eau, et puis tout le reste en aval. Toutefois, le bac est peu profond, donc exposé à la lumière. Puis-je y mettre une pierre? Aura-t-elle un effet? La réponse est oui. Alors, si tu mets du gravier, il y aura forcément quelqu'un qui va dire « Ah merde, il y a un gravier dans l'eau qui est pur, alors il va la prendre et balancer le gravier. » Si par contre tu mets un cristal de roche, le cristal de roche, par définition, ne sera pas visible. Enfin, il va être difficilement cernable. Donc quand il y a des eaux transparentes et qui sont, on va dire, visibles de l'extérieur, c'est sûr qu'un cristal de roche, ce qui est formidable, c'est que personne ne verra. Françoise, je peux mettre des cristaux directement dans le captage qui alimente une partie de mon village. Cette eau n'est pas traitée à environ 200 mètres pour arriver aux maisons. Combien de cristaux dois-je mettre pour un effet maximal? Cette eau vibrera-t-elle autant que celle d'une bouteille protégée? Alors, donc là, toujours pareil, il ne faut pas confondre l'encodage avec l'énergie. D'accord? Donc, si tu mets des pierres, effectivement, ça va encoder l'eau, ce qui sera quand même une chose merveilleuse, mais ça va pas forcément te fabriquer une eau qui va être à un trilliard d'unités Bovis. Alors, tu peux bien sûr régulièrement t'amuser à balancer 5 litres d'eau qui est montée à un quadrilliard ou même un quintilliard d'unités Bovis, c'est sûr que ça va monter l'énergie partout. Ça, c'est évident. C'est de l'engrais. Donc, pas de problème. Mais il n'empêche que le fait de mettre du gravier fera du gravier ou des cristaux de roche, selon les cas, eh bien, sera toujours de toute façon hautement bénéfique parce que toute l'information qui est déjà, on va dire, virolée. Alors, il faut savoir que l'encodage qui est dans le cristal a de multiples fonctions, et ça je l'ai écrit. Il a une fonction déjà de débarrasser l'eau des programmes involuants, de débarrasser l'eau des programmes qui sont contaminés, quand on dit s'il manque des morceaux, c'est-à-dire ils peuvent plus fonctionner correctement, il manque des morceaux. Et tous les programmes inutiles. Donc déjà, le fait de mettre des cailloux petits poussés va déjà quand même faire un ménage au niveau de l'eau. Et ensuite, une fois qu'un peu de ménage est fait, il encode. Donc, on remplace une grosse partie de l'information malsaine par de l'information saine. Donc forcément, c'est hautement profitable. Tara, est-ce que la pierre encodée peut modifier la quantité de métaux comme le fer d'un puits et ainsi la rendre buvable? Non. J'ai dit qu'il ne faut pas confondre l'information avec les capacités chimiques ou mécaniques qu'il peut y avoir sur l'eau. Donc, l'eau encodée ne fera pas disparaître le fer. L'information ne fait pas disparaître une matière. Pierre dans la mer. Y a-t-il un intérêt de mettre des cristaux dans la mer ou est-ce trop petit pour être efficace? Bon, j'ai répondu à la question. Pour l'instant, c'est trop petit pour être efficace. Hein? Donc, il faut carrément encoder des îles, il faut carrément encoder des presqu'îles, enfin des avancées rocheuses, il faut carrément encoder des plages. Et ceci se fera, pas sur toute la Terre, parce que malheureusement, vous imaginez que là, j'y passerai, je serai mort avant d'arriver à tout faire. Donc, non. D'autres méthodes sont mises en place, mais pour l'instant, on s'arrête au niveau de la France. Et quand on aura fait suffisamment tout autour du littoral, je pense que ça donnera des effets. Mais je voudrais vous parler de quelque chose, mais tant que j'ai des questions, je ne veux pas vous en parler. Donc, faut pas que je m'étende, parce que sinon, ça va être une conférence qui va durer 4 heures ou 5 heures. Alors, eau des déchets. Une question de Delta. Nous sommes focalisés sur le traitement de l'eau de source, l'eau de consommation, l'eau des rivières, l'eau de la mer. Ne serait-il pas judicieux de considérer aussi l'eau de source des déchets, entre autres déposer un caillou encodé dans un réservoir PVC? Eh bien, ni plus ni moins. quand nous utilisons l'eau pour laver, on va dire, pour laver la salade, enfin, la vaisselle et tout, cette eau-là, elle va pas au tout à l'égout, ça n'existe pas. Enfin bon, elle va pas au tout à l'égout tout de suite. C'est-à-dire que nous récupérons une partie de cette eau et nous en servons, comme dirait l'autre, comme chasse d'eau. C'est-à-dire, ça passe pas par la chasse d'eau, on a un seau, on vide le seau directement. Qui fait que l'eau encodée va dans les WC. Et là, je peux vous dire que votre fosse septique a souri de toutes ses dents, si elle en a eu. D'accord. Deuxièmement, quand vous mettez ça dans les eaux usées, ça va dans les eaux usées. Et donc les eaux usées en profitent aussi. Alors, j'ai des questions, Brigitte qui vient de m'envoyer des questions. Une question d'Isabelle. J'aurais une question, puisque ne fait que recompléter la bouteille de référence, cette eau reste donc consommable tout le temps. Oui, bien sûr. Je veux dire, elle ne prend pas un goût de vieille eau comme une eau laissée trop longtemps dans un verre. Non. Parce que tout simplement, comme un, elle est encodée, tout ce qui est déjà, comment dire, mauvais code, c'est-à-dire involuant, code incomplet ou code inutile, n'est plus là. Donc déjà, l'eau ne va plus enfin, ne va plus irradier par du mauvais code. Ça, c'est une première chose. La deuxième, s'il est évident que si tu prends l'eau de la Maracana et que tu complètes ton eau, c'est sûr que ça va contaminer. Mais si l'eau que tu remets en renouvellement, comment dire, est déjà filtrée, etc., ça sera déjà pas mal, on est d'accord, mais qu'en plus, sache que si elle est montée à un trilliard d'unités bovis ou un quadrilliard d'unités bovis, toute forme de vie qu'il y aura dedans aura, enfin de vie, je dirais bactéries, tout ça, etc., aura été quasiment transmutée. Parce que pour eux, c'est des fréquences qui peuvent pas tenir. Ils peuvent pas tenir. Bon, alors, je vais continuer avec Brigitte. Une question de Dolly. Est-il possible de mettre une pierre encodée dans des jus de fruits, légumes, faits maison? Bah, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que ton jus, si c'est un jus, c'est qu'il y a du liquide. S'il y a du liquide, il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, tu peux l'encoder. Et donc, on verra que des fois, dans ce jus, il suffit carrément de prendre de l'eau que tu as encodée, t'en verses, on va dire, quelques gouttes, enfin, bonne quantité pour que ton jus reste quand même du jus, et tu verras que la totalité de ton jus va prendre le truc. Donc, à ce moment-là, t'as pas à t'embêter à mener une pierre encodée, puisque tu auras déjà une eau qui est encodée et qui est hautement énergétisée. Donc, de ce côté-là, ça va vachement plus vite. Imaginez, si on doit s'amuser à encoder, à dire, oui, il faut que je mette le caillou là, puis qu'il faut que j'attende un certain temps pour que ça se fasse, bon, ça devient pénible assez vite. Donc, si par contre, vous avez toujours de l'eau encodée et énergétisée, je veux dire, à quantité, vous emmerdez plus. Franchement, vous emmerdez plus. Une question de Gino, excuse-moi. Une pierre encodée sert uniquement à l'eau ou il est utilisé de utile aussi de semer en forêt, par exemple? Alors, il faut savoir que l'encodage qui est mis dans la pierre sera de toute façon, l'encodage ne pourra être utilisé que par quelque chose qui est cristallin, et donc l'eau, liquide. Parce que quand tu verras un caillou, entre guillemets, faire un bisou à un autre caillou, là il y a un problème. Enfin, je veux dire, les rochers se déplacent pas comme ça, premièrement, et deuxièmement, l'encodage est une information. Or, si tu prends un caillou encodé que tu poses sur un rocher XYZ, ce rocher ne bénéficiera pas de cet encodage pour la simple bonne raison, c'est qu'il est fermé et qu'il a besoin d'un esprit cristallin pour l'ouvrir afin qu'il accepte l'information. Donc, grosso modo, si tu poses un caillou encodé sur des rochers, les rochers vont regarder, vont dire c'est bien, mais on peut rien faire. Donc ça sert à rien. Si tu mets un caillou dans la forêt comme ça, il va falloir qu'il y ait de la pourriture, il va falloir qu'il pleuve, et c'est donc d'un rendement extrêmement faible, voire nul. D'accord? Donc il faut comprendre que dans le cycle de l'eau, c'est que si il faut savoir que je crois que je sais plus c'est combien, 30 ou 40%, ou je sais plus, de l'eau se vaporise, enfin disons que même dans l'image. Donc si l'eau déjà par terre, l'eau courante, elle est encodée, quand elle va monter dans les nuages, elle sera encodée, puisque c'est de la formation. Donc même si elle se met sous forme de vapeur, ça reste toujours un cristal liquide. Et ce cristal liquide, quand il va aller pleuvoir sur la forêt d'à côté va recevoir ce codage. Donc, c'est pas la peine là, je crois qu'il faut laisser tomber cette idée, parce que ça n'amène pas vraiment quelque chose de bien. Pas de bien, c'est pas efficace. Une question d'Agnès. N'est-il pas mieux de faire bouillir l'eau avant de l'encoder? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que si tu fais bouillir l'eau, tu supprimes tout code, tout, absolument tout. Alors, si tu n'as pas de filtre, si tu n'as pas de choses qui te permettent de nettoyer l'eau correctement, il est évident que si tu mets une eau bouillie et que tu l'encodes après et que tu la montes en puissance, tu es sûr qu'au moins que dans cette eau bouillie, il n'y aura plus de bestioles qui traînent, que le chlore se sera évaporé, qu'il y aura eu un certain traitement qui aura été fait sur l'eau. D'accord? Ça, c'est l'avantage. Mais si tu veux faire bouillir toute l'eau de consommation, alors là, tu vas dépenser des fortunes. Une question d'amour. Pouvons-nous mettre un cristal encodé dans un aquarium? Fortement recommandé. Fortement recommandé. Parce qu'en faisant cela, les poissons ils vont se sentir bien, je peux vous le dire. Mais mettez aussi un petit peu d'eau de référence de temps en temps, parce que là, Elle est non seulement codée, mais surtout, elle est énergétisée. Et là, les poissons, là, ils vont être au nirvana. Donc, de l'eau encodée, c'est super. Alors, de l'eau encodée et énergétisée, c'est le top du top. Une question de Fa... j'arrive pas à lire, excusez-moi. Hein, les trucs informatiques, on peut pas grossir les choses. De Fala, ou Fafa, bon bref. Bonjour Laurent, qui te prouve que tu encodes le cristal correctement ? Il est connu que le cristal peut être aussi encodé négativement, ce qui est beaucoup plus difficile avec d'autres minéraux. Que penses-tu de l'aquaora et du cristal platine ? Bien, alors, je suis pas un spécialiste de l'aquaora et du cristal platine. La seule chose qu'il faut et que j'ai dit en préambule dès le début de la conférence, faites vos essais. Vous prenez un cristal encodé, vous le balancez dans la mare d'à côté, voyez ce qui se passe. S'il est mal encodé, vous verrez comment ça se barre en couille, et s'il est bien encodé, vous verrez comment ça se passe. Voilà, je n'ai pas d'autres preuves à vous donner, parce que tout ça, ce sont des questions mentales, de suppositions, de ci, de ci ou de ça. Aujourd'hui, on nous demande de faire du discernement. Donc, quand nous, on nous a refilé ça, je peux vous dire qu'on n'y a pas cru un iota. Et qu'on nous a donné cette possibilité, on a dit c'est bien, ouais, bon, d'accord. Et il a fallu qu'on aille chez la mère de Corinne pour qu'il sorte son pendule et qu'elle commence déjà à découvrir qu'il se passait des choses et que les compteurs, on va dire, explosaient en unité bovis et on s'est dit, mais ah bon? C'est-à-dire qu'on avait un cadeau, qu'on savait même pas véritablement quoi en faire et qu'on n'avait surtout absolument pas conscience de ce que ça faisait. Et il a fallu une personne extérieure qui a sorti son pendule et qui a commencé à faire ses petits essais, et ceci et ceci et cela, et à la fin, à force des essais, ça nous en a regardé, on se dit, ouais, tiens, ça fait des choses de cette affaire. Et donc, notre périple, tout simplement, dans le Breton, nous a permis simplement de prendre conscience que nous étions nous avions reçu un cadeau qu'on avait absolument sous-estimé en termes de capacité élévatrice de fréquence. On n'imaginait pas ça, parce que vous savez que quand on est en contact avec les êtres de la nature, quel que soit leur grade, ils vous font des tas de cadeaux, toujours, parce qu'ils sont dans le don. Donc ils adorent vous faire des cadeaux. Vous en avez des mâles entières, vous savez pas quoi en foutre, et dans la majorité des cas, vous savez même plus ce qu'on vous a donné, tellement vous en avez. Donc, même si j'ai une très chère petite fée qui est archiviste et qui tient l'inventaire, parce que des fois, quand je vais faire un cadeau en aide de la nature, je lui dis, bon, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose dans les trucs là qu'on pourrait lui offrir? Je te laisse faire pour lui offrir ce qu'il y a de mieux pour lui, parce que moi, je sais pas les morses. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai délégué complètement cette affaire, parce que on sait plus où on en est avec tous les cadeaux qu'on nous donne. Le seul truc, c'est que ce cadeau de l'encodage était mis sur une étagère et on lui disait, faites attention à l'eau que vous buvez, faites des trucs et des machins. Mais bon, comme on nous rabâchait ça en permanence, on se disait, ouais, faites pas chier. On est en 3D, il faut quand même qu'on avance, on a quand même des contraintes que vous avez pas. Et puis si on vous écoute, de toute façon, c'est pas difficile. Ça serait 24 heures sur 24 qu'il faudrait qu'on ait les yeux ouverts, qu'on fasse attention, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Bon, on plein le cul de temps en temps, pause. Donc vous savez, faut pas croire que, mais c'est très très fatigant d'être toujours en contact avec des entités qui sont là pour vous aider. Mais derrière tous leurs dons, tous leurs cadeaux, tous leurs joies, des fois vous commencez à dire, ouais bon, écoutez, là, hein, pause. Là, votre méditation, elle attendra demain. Là, les cadeaux, allez, on fout ça à la cave, on verra ça plus tard. Parce qu'on peut plus, quoi. On n'en peut plus. Donc il y a des gens qui se disent, moi j'aimerais rentrer en contact avec les aides de la nature. Nous, on a tellement de contacts que même maintenant il y a des gardiens autour de nous pour interdire les aides de la nature de nous approcher, parce qu'autrement on peut plus vivre. On peut plus. Donc autant il y en a qui piaillent, autant nous on est complètement débordés et on n'en peut plus. Donc c'est la même chose pour les cadeaux, et cet engodage de 5 des 6 dés que nous avons reçu était pour nous un cadeau parmi d'autres, un truc. On s'est dit, ouais, d'accord, encore un. Voilà, quoi. Vous voyez, donc, je sais que ça peut vous paraître un peu gros que je vous raconte ça comme ça, mais à avoir trop de cadeaux, à la fin, c'est plus des cadeaux. Vous dites, ouais, d'accord. Et puis vous passez pas votre temps à se dire, ah ouais, super, alors ceci. Non, on n'est pas dans le manque. On est milliardaires, nous, en forme de cadeaux. Mais on ne sait pas ce qu'ils valent. Et je peux vous dire que de temps en temps, quand dans certaines missions, on va dire, on nous demande, ressort ça, 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 ça. Oui, tu sais, t'as ça. Ah oui. Ah ouais, le truc là, ouais, ah ouais. Et puis bah tu le ressors, et puis là on dit bon bah tu l'utilises comme ça, tu fais ça. Et là tu te rends compte que tu dis attends, putain, mais putain, c'est génial ce truc. Voilà. Alors, je vais terminer les questions qu'il y a à l'écran, hein, et puis après on va aborder la troisième partie qui est la plus, enfin on va dire jouissive pour moi. Alors, nous en étions dans les autres sources et sources de déchets. Alors, bah là, comme je vous dis, hein, que ce soit les douves de château, que ce soit toutes les rivières couvertes d'algues, partout, partout où il y a une eau qui est quasiment morte, balancer un caillou et puis constater les résultats. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Faites votre opinion, faites vos essais. Prenez votre pendule, puis si vous jouez pas du pendule, regardez ce qui se passe, et puis ben, vous verrez. Et si balancer caillou suffit pas, a priori, je peux vous dire si balancer un litre de flotte, un verre de flotte de votre eau de référence, balancer un verre, et vous allez voir la différence. Parce que là, ça va, c'est Hiroshima x10. Mais bon, il est clair qu'en encodant l'eau ici du côté de chez nous, nous allons quand même peut-être, on va dire, freiner un petit peu la diffusion, hein, du fameux Fukushima. Parce que je peux vous dire qu'en ce moment, il fait pas bon, d'avoir les pieds dans l'eau du côté du Pacifique. Alors, effet vibratoire des cristaux. Je suis très sensible aux émissions des textes, ou plutôt de ceux qui les écrivent, des lieux, des photos, etc. Je suis allé sur le site de Pierre de Gaïa, la photo des quartz a une émission très douce, en ce qui me concerne, il me détend profondément. Outre le fait que j'ai l'intention de me procurer une dizaine de pierres pour me rendre utile, j'ai eu l'idée d'imprimer la photo desdites pierres et de m'en servir pour me ressourcer. L'énergie émise me réveille le centre de la gorge. Quelle est ton opinion à ce sujet? Eh ben, c'est super. Je vais vous dire ça dans la troisième partie. Attendez, ne quittez pas.